le magazine des Nations Unies.
La situation se stabilise progressivement dans le Grand Kassa grâce à l'implication de la force de la MONUSCO. La mission également très sollicitée par les FARDC pour faire face aux attaques des Maïmaï au sud Kivu, le long du lac Tanganyika. Des précisions dans ce magazine. Et puis 6 millions d'enfants en situation de malnutrition chronique en RDC. L'UNICEF a choisi la Journée internationale de l'enfant africain pour sensibiliser les professionnels des médias sur les phénomènes qui prennent de l'ampleur malgré les efforts menés dans le pays. Une experte de l'UNICEF décryptera pour nous la situation. 1er juillet 2002, 1er juillet 2017, la CPI, Cour pénale internationale, totalise 15 ans d'existence. Quel bilan faire de cette juridiction? Comment se comporte-t-elle par rapport à la situation du Kassai? Réponse avec l'invité de ce dimanche, Patrick Tchiboui de l'unité de sensibilisation du bureau de représentation de la CPI RDC. Et voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La MONUSCO, très impliquée dans la reprise progressive des activités dans le Kassai et très sollicitée dans les dernières attaques des Maïmaï au sud Kivu. Affirmation mercredi dernier à partir de Goma, au nord Kivu, du porte-parole militaire de la mission, le colonel Haïg. C'était au cours de la vidéoconférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Les propos du porte-parole militaire recueillis ici par Honoré Missenga Kalala.
Au Kassai, les populations commencent à retourner vers leur village grâce au déploiement de la force de la MONUSCO qui a favorisé ce retour progressif. La reprise des activités sur les marchés et la réouverture des écoles et églises fermées depuis plusieurs mois sont des indicateurs qui montrent l'efficacité de l'engagement de la force de la MONUSCO dans cette partie de la RDC. Ainsi, la force de la MONUSCO continue de travailler dans ce sens en coordination avec les forces de sécurité et de défense congolaises à travers des échanges d'informations afin de permettre aux populations de reprendre leurs activités. Au sud Kivu, les attaques lancées par les groupes Maïmaï le long de Tanganyika au cours de la semaine écoulée ont également préoccupé la MONUSCO. Au cours de ces attaques, la force de la MONUSCO a été fortement sollicitée par les forces de sécurité et de défense pour apporter tout soutien possible.
Parlons SIDA maintenant. L'Union africaine approuve le plan de rattrapage du traitement pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que l'initiative 2 millions de travailleurs de santé communautaire. C'était au cours du 29e sommet de l'organisation qui vient de s'achever à Addis Abeba en Éthiopie. L'approbation de ce plan est l'une des retombées du plaidoyer mené par ONU SIDA auprès des institutions internationales et principalement l'Union africaine. Jean-Pierre Lalikoko nous fait le point.
Pour le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, le 29e sommet de l'Union africaine tenu récemment à Addis Abeba représente le cadre idéal de plaidoyer. Un cadre pour rappeler aux chefs d'État et des gouvernements africains que malgré les signes positifs lancés par leurs pays respectifs en matière d'accélération du traitement du SIDA, le chemin est encore long. C'est pourquoi les déjeuners de plaidoyer organisés par l'Union africaine et l'UNICIDA étaient une belle occasion pour rappeler tous les pays à redoubler d'efforts dans la mise en application de la déclaration politique qui vise à mettre fin au SIDA d'ici 2030. Dans les interventions qui ont suivi les plaidoyers, les chefs d'État et les représentants du gouvernement ont réaffirmé l'importance d'accélérer la riposte au SIDA en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le commissaire de l'Union africaine a pour sa part invité les États à approuver le plan d'urgence des rattrapages et des traitements présenté par l'ONU-SIDA pour combler le retard accusé par cette région en matière de traitement de la pandémie. Il a également appelé l'OMS, l'ONU-SIDA et les autres partenaires à appuyer les États concernés dans la réalisation des objectifs de ce plan. Sur ce point, le Fonds mondial, l'Institut de la Terre ou même le gouvernement français ont exprimé leur soutien. Notons que la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre regroupe 25 pays pour une population de 500 millions de personnes. Le plan s'intéresse dans un premier temps à 8 pays qui sont le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Centrafrique.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
6 millions d'enfants en situation de malnutrition chronique chaque année en République démocratique du Congo. L'UNICEF a choisi la Journée internationale de l'enfant africain pour sensibiliser les hommes et femmes des médias sur ce phénomène qui prend de l'ampleur malgré les efforts menés dans le pays. Le magazine des Nations Unies s'entretient avec Madame Inès Lezama, chef de la section nutrition à l'UNICEF RDC, sur le sujet. Elle répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Madame Inès Lezama, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de la prison des journalistes aujourd'hui ici au siège de l'UNICEF?
On est ici parce qu'il s'agit de la célébration de la journée de l'enfant africain. Mm-hmm. Et cette année, le thème a été consacré à la malnutrition chronique, chez l'enfant notamment, qui est un fléau qui affecte pas mal d'enfants, au total de 6 millions d'enfants malnutris chroniques en RDC. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous, les journalistes, pour essayer de vous expliquer quelle est la problématique et voir quelles sont les actions qu'on peut tous mener pour attirer l'attention des publics en général, mais aussi des institutions et des responsables.
Vous parlez de la malnutrition aiguë, mais il y a aussi la malnutrition chronique. Les différences entre les deux pour les communs mortels?
Oui, il y a plusieurs types de malnutrition et nous, les nutritionnistes, on a tendance à les utiliser de manière très facile, mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Ici, on parle de deux types qui sont peut-être les plus présentes en RDC. Ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres types. Donc, la première qui est la malnutrition chronique, ça veut dire un enfant qui a une taille plus petite par rapport à son âge. C'est-à-dire qu'il n'a pas grandi, c'est un retard de croissance, il n'a pas grandi de la manière qu'il devait. Il n'est pas visible, puisqu'on ne voit qu'un enfant peut-être de 8 ans qui peut avoir la même taille qu'un enfant de 21 mois ou de 36 mois. Et on peut voir que c'est un enfant court par rapport à son âge. Et on n'y pense pas qu'il est malnutri, mais en réalité, il est malnutri. Cette idée de malnutrition, il cache en réalité d'autres problèmes qui sont plus graves. C'est en tête des développements de son cerveau. Cet enfant, il sera réduit. Sur le plan intellectuel, il y a des évidences qui prouvent que ces enfants, en plus d'être courts par rapport à leur âge, ils ne développent pas le cerveau comme il faut. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se développer de manière cognitive et ils vont avoir des problèmes pour aller à l'école, ils vont avoir des problèmes à l'âge adulte pour produire comme une personne, puisqu'ils vont gagner moins de ressources aussi pour leur famille. Donc c'est ça qu'on appelle la malnutrition qui est un peu silencieuse parce qu'on ne la voit pas. Et après on a un autre type de malnutrition qui est la malnutrition aiguë qui peut être des formes sévères ou modérées qui est celle qui arrive à une population qui est dans un état de choc. Ça veut dire qu'il y a eu par exemple une maladie, un pic de palu de manière globale qui fait que ces enfants ont été malades ou bien ils ont eu moins d'alimentation et qui deviennent tout maigres et ils sont des enfants malnutris aigus.
C'est les types de malnutrition les plus connus en RDC.
Il est plus connu parce que c'est lui qu'on le voit plus, il nous frappe plus à la vue. Et on a tendance tous, pas seulement en RDC, dès qu'on voit un enfant tout maigre, de dire ah, il est malnutri. C'est qu'on veut montrer qu'il y a d'autres types de malnutrition aussi, qui ne sont pas visibles, qui ne frappent pas autant, mais qui ont aussi des conséquences assez importantes.
Vous venez de parler des différents types de malnutrition. Est-ce qu'on peut en connaître l'état des lieux en République démocratique du Congo par rapport aux autres pays africains, par exemple les pays limitrophes?
On sait qu'on est le 15e pays au monde dont de prévalence des malnutritions chroniques. Ce que ça veut dire que parmi tous les pays du monde, la RDC, c'est les top 15 en termes de ces taux de malnutrition chronique. Et on est 7e en Afrique. Si on fait nos calculs en base de nombre d'enfants affectés, on est parmi aussi le premier, parce qu'on a 6 millions d'enfants malnutris chroniques en RDC chaque année. Et ça, c'est un problème qui existe depuis très longtemps. Ce n'est pas un problème nouveau. Depuis 1995, il y a eu quand même une petite réduction en termes de taux, mais très faible. Ça veut dire que ce qu'on est en train de faire pour éradiquer ces problèmes, il n'est pas suffisant. Quelque part, on n'est pas en train d'arriver à toucher ces enfants.
Mais comment faire? Parce qu'il y a des programmes qui existent, il y a des plans, même sur le plan national, mais on n'y arrive pas, madame.
Effectivement, il y a pas mal de choses qui ont été faites dans le pays en termes d'engagement politique pour pouvoir éradiquer ces problèmes, d'adhésion à des mouvements globaux. Il y a une politique, il y a un plan stratégique. Maintenant, il faut mesurer son niveau de mise en œuvre. Est-ce que les investissements qui ont été faits sont suffisants? Est-ce qu'on est en train d'arriver à la population qui en a besoin? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train d'aller au milieu rural, là où il y en a plus de besoins, ou on est en train de se focaliser surtout dans certaines zones et pas d'autres? Donc, c'est beaucoup des questions que nous-mêmes, on se pose. Mais notre conclusion, c'est que les efforts ne sont pas encore suffisants et qu'il y a beaucoup à faire. Il faut répéter aussi que ce n'est pas une action de nutrition qu'il faut ou d'alimentation qu'il faut pour réduire la malnutrition chronique. Il faut qu'un enfant il ait accès aux soins de santé, qu'il ne soit pas malade. Il faut qu'un enfant il ait accès à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement. Il faut réduire la pauvreté pour que ces familles puissent nourrir tous les enfants. Et il faut aider les femmes aussi et les hommes, en fait, les ménages, à pouvoir prendre soin bien de ses enfants, y compris tout ce qui est les stimulations précoces des enfants, les jeux et les soins, etc.
Madame, vous êtes chef de l'unité de nutrition ici à l'UNICEF. Qu'est-ce que l'UNICEF peut apporter concrètement dans l'effort collectif du gouvernement?
Bon, l'UNICEF, il se focalise surtout chez les enfants. Il y a d'autres partenaires qui travaillent plus chez les femmes, au niveau de l'agriculture, mais l'UNICEF, et tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est fournir un service, un paquet de services de nutrition, de santé, d'eau auprès des ménages, au niveau de la communauté, mais aussi au travers des systèmes de santé.
Qu'est-ce que vous fournissez dans les centres de santé pour lutter justement contre la malnutrition? Est-ce qu'on peut trouver ça?
On peut trouver pas dans tous les pays, c'est ça le problème. On n'a pas de ressources suffisamment pour couvrir tous les pays avec toutes les interventions. Mais on essaye de couvrir le maximum possible. Okay, donc on a des interventions d'appui, de suivi de la croissance de l'enfant, ça veut dire à travers les centres de santé. Ils font des consultations préscolaires des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans pour suivre sa croissance.
Ici à Kinshasa, où est-ce que vous le faites?
Il y a plusieurs centres de santé, maintenant je ne vais pas vous citer tous les noms, mais il y en a plusieurs dans lesquels on a certaines interventions. Nous focalisons nos efforts au niveau rural, dans les zones dans lesquelles il y a plus des problèmes de malnutrition chronique. Quoique on ne peut pas oublier la grande ville, parce que le problème existe également, mais en train de priorisation, on doit aller dans les zones dans lesquelles il y a plus de problèmes d'équité. On a Sud Kivu, mais on a toute la zone sud aussi, au niveau des Kasaï, on a les Nord Kivu, à la Tchoupo aussi, on est aussi au Bandundu, on est dans plusieurs provinces, je ne peux pas toutes les citer.
Selon l'UNICEF, quelle est la province la plus marquée par la malnutrition de deux types?
Bon, ce n'est pas l'UNICEF, c'est selon les enquêtes nationales. On a notamment les zones du Kivu qui ont plus de nombre de cas.
Et pourtant, c'est les greniers de la RDC lorsqu'on voit les choses.
C'est ça qui est un peu paradoxal, en fait. C'est qu'on a tendance à penser que quand c'est disponible, on l'utilise. Et je pense que c'est là où il y a des grandes différences. Il faut aller voir au-delà de la production, il faut aller voir ce qui se passe dans le ménage et pourquoi les enfants n'arrivent pas à consommer ce qu'il faut. Parfois, les familles sont obligées de vendre leur production pour s'en sortir. Donc, c'est l'utilisation au sein des ménages qui est important. Comment on répartit cette nourriture, comment on alimente et on nourrit son enfant.
Madame Inès Lesama, merci.
Merci à vous.
La page de nouvelles partira de Goma au Nord Kivu. La MONUSCO a organisé lundi dernier un exercice de simulation en cas d'éruption volcanique. Quelques 11 000 habitants de la ville de Goma ont donc participé à cet exercice. Quand la sirène a retenti, les habitants ont quitté leur quartier à la périphérie de la ville pour se regrouper au stade Afia. Et là, des secouristes, infirmiers et médecins les attendaient. Cet exercice visait à aider la population à préparer son évacuation en cas d'éruption volcanique. L'exercice a bénéficié du concours du PAM et de la Banque mondiale sous la coordination du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Le signal d'alerte a été donné grâce à une sirène de longue portée installée l'année dernière par la MONUSCO. Rentrons à Kinshasa pour rappeler ce communiqué de la MONUSCO. Le chef de la mission, Maman Sidikou, demande à la CENI de publier sans tarder le calendrier officiel et consensuel pour l'organisation des élections. Le représentant spécial rappelle par ailleurs à tous les signataires de l'accord du 31 décembre 2016 leur obligation de le mettre en œuvre intégralement et de bonne foi. Enfin, sur le volet santé, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a procédé du 27 au 29 juin à la vaccination de plus de 500 000 enfants contre la polio dans trois provinces de l'ex-Katanga, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Lualaba. Il s'agit donc de la première phase d'une campagne de vaccination visant à empêcher la propagation de la maladie et l'infection d'autres enfants dans la région.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme annoncé dans le sommaire, la Cour pénale internationale, CPI, a accompli 15 ans d'existence. Pendant cette période, cette juridiction de la Haye s'est saisie de 24 affaires pour 9 condamnations, un acquittement et 2 appels notamment. Notre invité de ce dimanche pour faire le bilan de la CPI s'appelle Patrick Tchiboui, l'un des responsables de l'unité de sensibilisation du bureau de représentation de cette cour en République démocratique du Congo. Patrick Tchiboui répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Patrick Tchiboui, bonjour.
Bonjour.
1er juillet 2002, 1er juillet 2017, la Cour pénale internationale a accompli 15 ans d'existence. À l'occasion de cet anniversaire, pouvez-nous dire quelle a été la mission confiée à cette institution internationale à sa création?
En résumé, la Cour a été créée pour enquêter et poursuivre les auteurs de crimes graves, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide et le crime d'agression. Toutefois, et il est important d'insister là-dessus, la CPI n'exerce cette mission que si les systèmes nationaux, ça veut dire les tribunaux nationaux, n'ont pas la volonté ou n'ont pas la capacité de le faire. C'est ce qu'on appelle le principe de complémentarité, qui est un principe fondamental, et c'est ce principe de complémentarité justement qui garantit la souveraineté des États, dans la mesure où on reconnaît que c'est d'abord aux États de pouvoir poursuivre en premier lieu les auteurs des crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale, et comme je l'ai dit, la Cour n'interviendra qu'en second lieu si ces États n'ont pas la volonté ou n'ont pas la capacité de poursuivre les auteurs de ces crimes graves.
Et si ces États sont eux-mêmes les présumés auteurs de ces crimes?
D'abord, la Cour exerce sa compétence qu'à l'égard des personnes physiques. La Cour pénale internationale ne poursuit pas les États, ne poursuit pas les personnes morales. Seules les personnes physiques relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Mais nous avons au sein du statut de Rome une disposition fondamentale qui est l'article 27 qui parle du défaut de pertinence de la qualité officielle. Ça voudrait dire que les individus qui sont seuls justiciables devant la Cour pénale internationale, et ces individus peuvent être poursuivis quel que soit leur rang social. Donc un chef d'État, un membre de gouvernement, un ministre, un député, un sénateur peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale parce que la CPI ne reconnaît pas le statut officiel.
Alors, je reviens à la mission de la CPI 15 ans après. Quel est le bilan?
Alors, 15 ans après, nous avons 24 affaires qui ont été ouvertes devant la Cour pénale internationale. Nous avons eu 9 condamnations et un acquittement. 6 suspects sont détenus par la Cour. Il faut aussi ajouter que nous avons 6 affaires qui sont au stade du procès, 2 en phase d'appel et 3 en phase de réparation. Nous avons malheureusement 14 suspects qui sont encore en fuite parce que les mandats d'arrêt lancés à leur encontre n'ont pas encore été exécutés.
Oui, parmi les affaires déjà traitées ou en cours de traitement, il y a des affaires congolaises.
Il y a des affaires congolaises, effectivement. Dans les affaires congolaises, vous avez l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga, qui a été reconnu coupable, qui est en train de purger sa peine ici en République démocratique du Congo. Germain Katanga, qui avait été reconnu coupable, mais qui a déjà fini de purger la peine qui a été prononcée contre lui par la Cour pénale internationale. Mais il reste en détention parce qu'il est poursuivi par la justice nationale congolaise pour d'autres faits que ceux pour lesquels il avait été condamné par la Cour pénale internationale. Mathieu Ngoudjolo a été acquitté. Actuellement, nous avons le procès Bosco Ntaganda qui est en cours et nous avons un suspect, Sylvestre Mouda Chumura, qui n'est pas encore arrêté parce qu'il est en fuite.
Donc, le dossier Bemba n'est pas dans les affaires congolaises.
Le dossier Jean-Pierre Bemba n'est pas dans la situation en République démocratique du Congo. Mais ce Jean-Pierre Bemba est poursuivi pour des allégations commises par ses troupes en République centrafricaine. Et dans cette affaire, au principal, M. Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable, condamné à une peine d'emprisonnement de 18 ans. Il est en appel, en phase d'appel, par rapport au verdict et à la peine qui était prononcée contre lui. Et nous avons dans la seconde affaire où il était poursuivi avec d'autres personnes pour ce qu'on a appelé les atteintes à l'administration de la justice. Là également, toutes ces personnes ont été reconnues coupables, les peines ont été prononcées. Donc voilà un peu la situation pour ce qui concerne M. Jean-Pierre Bemba.
Et dans l'affaire Bosco Ntaganda en cours, où en est-on?
Nous sommes dans la deuxième partie du procès. Donc le procès est déjà bien entamé parce que la première phase de la procédure a déjà pris fin dans la mesure où le procureur a déjà présenté ses éléments de preuve. Nous sommes maintenant dans la deuxième phase du procès où c'est la défense qui est en train de présenter ses éléments de preuve. Et ce n'est qu'à l'issue de cette deuxième phase du procès que nous aurons à attendre la décision qui sera rendue par le juge, en signalant que M. Bosco Ntaganda a été appelé à témoigner et a eu à témoigner devant la Cour pénale internationale dans cette affaire le concernant.
Oui, vous avez également évoqué l'affaire Thomas Lubanga qui a été condamné il y a 5 ans. Où en est-on avec le processus d'indemnisation des victimes?
Alors ça c'est une très bonne question. C'est vrai que concernant les réparations de l'affaire Thomas Lubanga, nous attendons toujours la décision qui sera rendue par les juges juge, parce qu'il faut rappeler un principe fondamental, les réparations ne peuvent être accordées que si l'accusé est reconnu coupable. Si l'accusé est acquitté, on n'aura pas de réparation. C'est comme ça que dans l'affaire Mathieu Ngoudjolo, comme il a été acquitté, nous n'aurons pas de réparation pour les victimes. Mais dans l'affaire Thomas Lubanga, nous attendons la décision sur les réparations, étant donné qu'il a été reconnu coupable et ce verdict de culpabilité a été confirmé également en appel. C'est ainsi qu'il est ici en RDC en train de purger sa peine. Nous attendons la décision sur les réparations, mais les juges ont rendu dans une autre affaire, l'affaire Germain Katanga, la première décision sur les réparations. Et ça, c'est important d'insister là-dessus. Donc, c'est au mois de mars 2017 que la Cour pénale internationale a rendu sa première décision sur les réparations au profit des victimes de l'affaire Germain Katanga. Et ça, c'est également un élément à mettre en compte dans le bilan de la Cour pénale internationale pendant ces 15 ans, parce que pour la première fois de l'histoire de la justice pénale internationale, des victimes obtiennent réparation devant une juridiction pénale internationale. Ça n'a jamais existé, ni devant le tribunal militaire de Nuremberg, ni au tribunal pénal international pour le Rwanda, ni au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Les victimes n'ont jamais obtenu réparation. C'est la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale que des victimes obtiennent réparation devant une juridiction pénale internationale.
Oui, mais des réparations collectives et symboliques.
Des réparations individuelles qui étaient accordées à 250 victimes dans l'affaire Germain Katanga. Ils ont obtenu des réparations individuelles qui se concrétisent en indemnisation décidée par les juges. Indemnisation symbolique, c'est vrai, de $250 que chacune de ces 250 victimes recevra. Également des réparations collectives que les juges ont décidées qui prendront la forme d'aide au logement, d'aide à l'éducation, de soutien psychologique, qui sont donc là des réparations collectives qui ont été prononcées au bénéfice de ces 250 victimes.
Il y a eu des victimes en Ituri. Aujourd'hui, il y a certainement aussi des victimes dans le Kassai, avec la crise sécuritaire connue dans cet espace de la République démocratique du Congo depuis août 2016. Comment la CPI se comporte face à cette nouvelle crise? Est-ce qu'il y a des enquêtes en cours? Il y a des mandats d'arrêt en préparation?
Ce que je peux vous dire, c'est que Madame le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a eu dans sa déclaration du 31 mars 2017, a rappelé que son bureau continue son travail en République démocratique du Congo et qu'elle n'hésiterait pas à agir si des actes constitutifs des crimes relevant de la compétence de la Cour sont commis, et elle prendra donc toutes les mesures qui s'imposent pour poursuivre en justice les personnes responsables en conformité avec le principe de complémentarité, qui est un principe fondamental.
Patrick Tchibouyi, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et la nouvelle de province nous emmène au Goma, au Nord Kivu, où les élèves de l'école primaire Kaouta ont été édifiés avant d'aller en vacances par la mission des casques bleus guatémaltèques, ainsi que par les réalités historiques et géographiques du Guatemala. C'était à l'occasion d'une classe promenade. Un reportage signé Rosalie Zawadi.
La visite a commencé par la présentation de la mission du contingent guatémaltèque de la MONUSCO. Composé de 150 éléments, ce contingent de l'Amérique centrale a parcouru 13 400 km pour arriver au Nord Kivu le 28 mars de cette année. C'est l'officier chargé des relations des militaires avec les civils, Alan Garcia, qui reçoit les premiers, les enfants, dans les hangars de la base.
La force spéciale guatémaltèque intervient à tout moment, chaque jour. Elle utilise tous les moyens pour protéger la population civile de la République démocratique du Congo.
Les enfants ont ensuite suivi avec attention des documentaires sur le Guatemala, sa population et sa culture. Très curieux, les enfants ont eu beaucoup de questions sur ces pays, comme cet élève.
J'ai posé la question, quelle était la date de l'indépendance du Guatemala? C'était le 15 septembre 1821. Et s'ils étaient arrivés ici à pied, à voiture, ils ont dit qu'ils étaient arrivés en avion et ils ont fait 21 heures de vol.
Les enfants disent avoir beaucoup appris de cette présentation.
Ils sont venus pour défendre aussi notre pays. C'est très courageux. On a vu les vidéos de leur pays, il y avait des océans, leur drapeau et des deux couleurs bleues, une à gauche, une autre à droite, et au milieu, il y a une couleur blanche. Les deux couleurs bleues signifient les deux océans qui sont à côté de leur pays. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que leur pays, c'est le Guatemala. Leur capitale, c'est le Guatemala. Et leur armée, c'est l'armée de Guatemala. Or que pour nous, notre pays, c'est la RDC. La capitale, c'est Kinshasa. Mais eux, tout, c'est Guatemala.
Certains ont même été rassurés par un élément géographique du Guatemala, la présence des volcans dans ces pays lointains.
Je croyais que c'était seulement dans un pays qui avait les volcans. Et quand j'ai appris que chez eux, il y avait 14 volcans, ça m'a vraiment étonné et ça m'a fait du bien. Ma peur a un peu diminué.
Fini la présentation géographique et la mission des contingents, les enfants ont visité l'équipement et l'armement de cette force spéciale Kaibil. Ici aussi, ils ont été impressionnés.
J'aimais aussi leurs combattants, leurs équipements. J'ai vu des armes, des antiballes qu'ils portent pour les protéger et le casque qu'ils portent aussi pour les protéger et les jumelles qui servent à voir de très loin leurs ennemis.
C'est dans une ambiance de partage, des danses que cette visite de 3 heures s'est terminée à Mubambiro. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Écoutez à présent cette question sur la réduction du budget de la MONUSCO ainsi que la réponse de Fabienne Pompé. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, mercredi dernier.
Valérie Mokosasing pour le compte de 767.cd. Vous avez tantôt parlé de la réduction du budget de la MONUSCO pour l'année 2017. Peut-on avoir une idée sur son impact dans les activités de la MONUSCO en RDC? Mais également, est-ce que les déplacements de la MONUSCO quitter Walikale et Masisi ne serait pas le résultat de cette réduction? Merci.
Il est évident qu'avec une réduction budgétaire, il faut réajuster. Ça, c'est encore en cours de discussion au sein de la mission pour savoir comment le budget sera réajusté à l'interne. Cette diminution, elle touche pas que la MONUSCO, elle touche plusieurs autres missions. C'est une réduction qui n'est pas négligeable, en effet. Mais c'est pas la première. Hein. On a déjà eu plusieurs réductions du budget de la MONUSCO qui a baissé de 20% en 4 ans. Donc, on doit se réadapter à chaque fois aux nouvelles réalités financières. Ce qu'il faut, c'est toujours prendre en compte le mandat, être capable, tout en restructurant et en réadaptant, de pouvoir assurer le mandat qui nous a été confié par le Conseil de sécurité. Pour ce qui concerne les troupes de la MONUSCO, c'est effectivement un changement de mode opérationnel qui a déjà commencé dans certains endroits, où il y aura plus de mobilité, plus de flexibilité, plus d'adaptabilité des troupes sur le terrain, pour qu'elles puissent conserver leur capacité à protéger les populations civiles.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Bienvenue Bagalois, marié, père de 3 enfants. J'ai une épouse, bien sûr, et je suis trop attaché à ma famille. J'ai étudié à l'école d'application de l'UPEN. Là, j'ai obtenu un diplôme latin philo. Et quant à mon parcours académique, je suis allé à l'UPEN, où j'ai fait l'anglais et culture africaine. Et j'ai obtenu une licence en anglais et en culture africaine. Pour le moment, je suis aux ressources humaines à la MONUSCO. Depuis 2005, j'ai commencé en tant qu'interprète. J'ai travaillé avec les Uruguayens, un contingent où on devait traduire en français, anglais et puis espagnol. Et finalement, il y a eu juste un petit changement parce que on devait, dans l'entretemps, travailler avec les ressources humaines où chaque fois qu'il y avait des interprètes qui devaient être engagés, alors j'étais associé au panel pour les interviews en tant que spécialiste en langue. Alors il est arrivé à un moment donné par rapport à l'abolition des postes. J'étais touché dans cet exercice-là. Mais lorsqu'on a demandé qu'on fasse l'expression d'intérêt, donc je suis revenu, on m'a placé, c'est ce que je dis, dans les ressources humaines, et j'ai évolué là depuis 2014 en tant qu'assistant aux ressources humaines. Et là, c'était dans l'unité assistance aux clients, donc tous qui sont comme agents des Nations Unies venaient pour tel ou tel problème et nous étions en train de les assister. Pour le moment, je suis en train de travailler dans l'organisation des postes. Mais dans l'entretemps, alors on a eu aussi beaucoup de choses à faire, beaucoup d'enseignements, beaucoup de formations. En tant que tel, je suis expert en Umoja. C'est une application qui est utilisée dans les Nations Unies, une base de données de tous les personnels des Nations Unies. Chaque fois qu'il y a traitement dossier dans les fonctionnalités, c'est moi qu'on contacte. Alors on reçoit tout le temps des appels. Nous venons à 8h30, mais personnellement, je préfère venir avant 8h30 pour voir les emails parce que d'habitude, il y a des gens qui vous envoient les emails à 4h du matin ou alors pendant le week-end. Vous allez être en mesure de voir, de lire, n'est-ce pas, ces messages et de savoir réagir. Donc vous réagissez aussi rapidement avant de prendre votre journée et finalement travailler par rapport à votre emploi du temps. Et là, chaque fois, c'est entre les appels et les urgences. Vous voyez, ce sont les ressources humaines. Vous recevez les ordres ou les instructions qui viennent de votre superviseur hiérarchique. Entre ces instructions et puis les clients que vous recevez, vous devez vraiment tout faire pour satisfaire à leurs besoins. J'ai plus évolué dans le domaine de l'enseignement avant d'être à la MONUSCO en 2005. Par rapport à mon temps libre, il faut dire que je n'en ai pas vraiment. Je préfère plus passer le temps à l'église et avec ma famille, rester ensemble parce qu'on n'a pas toujours le temps. Les haricots, j'aime le riz, j'aime plus les légumes, le poisson et la viande, vraiment ça ne m'intéresse pas. La musique, j'aime la musique chrétienne, surtout le pasteur Adams. Kiyote Masia Yesu. Perspective d'avenir, j'aimerais vraiment continuer à être beaucoup plus professionnel, international, évoluer dans le système des Nations Unies, pourquoi pas dans une autre agence, continuer à avoir d'autres ambitions, être le patron de moi-même et avoir une entreprise, un peu ça ce que je peux dire par rapport à mon...
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Et pour terminer notre agenda de la semaine, le 11 juillet, c'est la journée mondiale de la population. Du 11 au 13 juillet prochain, il y aura un atelier sous-régional des acteurs d'Afrique centrale sur la gestion de la chenille d'automne à Kinshasa avec la FAO. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette édition de UN Mag. Merci de nous avoir suivis. Je suis Tina Salama. Je vous l'ai présenté avec beaucoup de plaisir, comme tous les dimanches. À la coordination et à la réalisation, Jean-Pierre et Lali Coco. Au reportage, Honoré Missenga. Ce magazine a été mis en onde par Paul Badianyama et supervisé par Martin Sebou-Jangwe. On se dit à très bientôt sur Radio Kapi. Ciao, ciao.